France Inter. Tapage non masculin, bruit excessif, boucan, vacarme. Le tapage, c'est le son qui trouble le voisinage, qui résonne dans la nuit, vous empêche de dormir. C'est le nom de votre nouveau rendez-vous musical sur France Inter. Jusqu'à 21h, on fait monter les décibels, on prend le pouls de la scène française. Et ce soir, un artiste en mue permanente, un rappeur devenu chanteur qui, en 25 ans de carrière et 14 albums, n'a jamais cessé de se réinventer. This Is est mon invité. Moi, c'est Camille Diao, bienvenue dans mes oreilles.
La page Camille Diao sur France Inter.
Vous l'avez peut-être remarqué, ces dernières années, dans le rap, tout le monde, ou presque, s'est mis à chanter. Alors dans l'ordre, c'était Gims, R&Boy et Jul, trois morceaux tout en haut du top 50 en ce moment, trois artistes qui viennent du rap mais qui n'hésitent pas à pousser la chansonnette. Et c'est vrai que de ce point de vue, les choses ont bien changé. Alors il y a toujours eu des rappeurs qui tentent de chanter, et même parmi les plus ghettos. Ça c'est 50 Cent, souvenir de 2003. Mais à l'époque, c'était une exception. L'immense majorité des rappeurs préféraient faire appel à des chanteuses de R&B. Rof, par exemple, invitait Kaylia. Quant à Jay-Z, eh ben, il confie le refrain à Alicia Keys. En fait, pendant longtemps, le rap et le chant se côtoyaient, mais de façon très étanche. C'était à la fois très binaire et assez genré. Mais tout ça a changé avec l'arrivée de l'autotune. L'autotune, c'est ce logiciel qui, à l'origine, sert à corriger les fausses notes, mais qui très vite va devenir un outil pour les rappeurs qui ont des mélodies en tête, mais qui n'osent pas trop les chanter. L'autotune décomplexe permet de se lancer et d'atteindre des notes qui semblent inaccessibles, autrement dit.
Avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux.
Ça, c'est Damso, il dit très bien. L'un des premiers rappeurs à en faire une véritable signature sonore, c'est l'américain T-Pain, au milieu des années 2000. En France, c'est Booba qui lance la tendance en 2008. Depuis, tout le rap français s'y est mis, de PNL à Vald, de Nino à SCH. En fait, chanter, ça permet de proposer des morceaux plus pop, et donc de s'adresser à un public plus large, mais c'est aussi une histoire d'émotion. Parce que bien souvent, c'est une façon d'exprimer une mélancolie, une douleur, de se montrer vulnérable. Un très bon exemple, c'est le rappeur Kanye West, qui se met à chanter en 2008, juste après la mort de sa mère. L'autotune, avec sa tonalité à la fois robotique et mélancolique, se prête particulièrement bien à l'expression des sentiments. Mais ça peut aussi fonctionner sans. L'artiste français Luigi, par exemple, qui a démarré dans le rap, chante la plupart du temps sans autotune et c'est tout aussi déchirant. Alors les puristes du rap y voient une sorte de trahison, comme une offense faite à la culture hip-hop. Moi je pense que ce qui les dérange, c'est surtout l'expression d'une autre masculinité qu'ils perçoivent comme trop fragile. Ils ont sûrement des petits sujets à régler. Et puis l'autre argument, il est musical. Si ça chante, c'est pas du rap. Cette vision, en 2025, elle me semble un tout petit peu obsolète, mais elle pose tout de même une question essentielle. Au final, qu'est-ce que c'est le rap? Est-ce qu'on le définit par l'absence de chant, ou plutôt par une écriture, par une posture, par un certain rapport au monde? Eh ben, on va en discuter avec un ancien rappeur qui s'est mis à chanter, et depuis bien longtemps, sans autotune. Hein. C'est This Is, ici en featuring avec Théodora, Mélodrama sur France Inter.
Blessé, baisé, VGT dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel, ça fait de l'aquarelle. vie sans elle, tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi, tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condensé mais du mélodrame. Ça fait si mal, oh, que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condensé mais du mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on se raccompagne.
Page pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime à un homme pas deux. Je suis dans le bulle d'hiver. Je suis dans un étoilé mais je repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes bras. J'ai jamais vraiment été ta valentine. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes bras. J'ai jamais vraiment été ta valentine.
C'est tout à ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un coup dans ce mélodrame. Ça fait si mal, donc ça fait pas longtemps. Que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta valentine.
Bonsoir, DC's.
Bonsoir.
Bienvenue, Camille. Dans ta page. Bienvenue.
Bah ouais. Content d'être là, pour de vrai.
Eh ben, je suis très contente de te recevoir aussi. À l'heure où on se parle, ce titre en featuring avec Théodora, il est numéro 1 des charts. Ça fait 5 semaines. C'est quand la dernière fois que tu t'étais hissé tout en haut des charts, comme ça?
Je crois que c'était avec Rencontre, avec Damso.
Donc c'était sur
3
ton
ans.
Précédent album.
Ouais.
T'as 25 ans de carrière derrière toi, DC's. Tu as sorti ton 14e album qui s'appelle On s'en rappellera pas. Il est sorti hier. Ça va nous occuper jusqu'à 21h. Je trouve ça intéressant parce que ta carrière, elle commence en l'an 2000. En 2022, tu classes encore des morceaux numéro 1. 2025, rebelote avec ce morceau mélodrama. C'est quand même assez rare, une telle longévité, tout en restant aussi pertinent pour le public. Et le jeune public d'ailleurs, parce que mélodrama, c'est pas les anciens qui écoutent ce titre-là.
Après, c'est aussi parce qu'il y a l'apport de Théodora, qu'il y a le jeune public. Moi, j'ai jamais fait des choix pour être dans la longévité. Je fais des choix pour pas m'ennuyer. Je veux pas m'ennuyer sur un disque. Je veux pas refaire la même chose. Après, ça demande beaucoup. C'est un style de vie qui est particulier, qui est même assez marginal. Parce que je vais longtemps en studio, je fais des longues sessions pendant des semaines et des semaines, comme si le studio c'était mon atelier, et on essaye plein de choses. Mais il n'y a que comme ça que je peux faire de la musique. Et depuis que je m'écoute vraiment dans cette manière de faire, il semble que ça fonctionne. Donc moi, c'est cool. C'est pour ça que c'est pertinent, mais j'adore.
Et c'est comme ça que tu te renouvelles aussi. Et ton renouvellement, il est aussi passé par le chant. C'est pour ça que j'avais envie d'ouvrir sur cette question-là. Parce que lorsque tu te fais connaître, donc en 2000, sous le nom de DC's La Peste, tu es un rappeur pur jus.
J'pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job.
Alors aujourd'hui, c'est plus DC's La Peste, c'est DC's tout court, et ouais. DC's tout court. Il rappe presque plus, il chante. D'ailleurs, ça fait un certain nombre d'années, maintenant c'est pas nouveau. Comment est-ce que toi, tu t'es mis à chanter?
Non, je pense que j'ai toujours chanté dans ma tête. C'est-à-dire que quand j'entendais des morceaux de Prince, ou de George Michael, ou de Michael Jackson, je l'ai chanté dans ma tête. Mais pour que ma voix sorte ces mélodies-là, c'était impossible. Parce que tout ce qui était chant, c'était associé à de la faiblesse, ou quelque chose de fragile, de vulnérable. Et c'est hors de question de te montrer vulnérable quand tu grandis dans les années 90, dans un quartier précaire en France. C'est pas possible. Il y a trop d'hostilité. Du coup, pour oser sortir cette voix, juste pour moi-même, ça a pris du temps. Quand j'enregistrais l'album Peter Punk, je me rappelle, j'étais à New York et ça y est, je me disais, bon, vas-y, je vais essayer des choses à la Prince, tout ça et tout. Donc j'avais les mélodies dans ma tête, mais dès que je passais derrière le micro, le simple fait de m'entendre, ça me cringeait, comme disent les jeunes. C'était pas possible. Et il a fallu du temps.
Ça, c'était en 2010. Et justement, tu dis qu'il a fallu du temps. Et pour préparer cette interview, je me suis refait un peu toute ta discographie. Et c'est très touchant, en fait, de voir comment tu te mets à chanter progressivement. En 2010, donc, sur ce projet Peter Punk, à l'époque, tu chantes comme ça.
T'as honte de moi, te divertis. Tu ne m'aimes pas, c'est pas vrai, donc je t'aime.
C'est encore un petit peu timide.
Ouais, de ouf.
4 ans plus tard, album Translucide, tu vas pousser un petit peu plus loin les mélodies.
Je veux juste te remplir et peu importe avec quoi. Bien chasse oui. Ces mauvais souvenirs juste en claquant des doigts.
Ce soir, donc là, on a entendu, il y a de l'autotune, ce logiciel ouais. dont je parlais, qui aide aussi à se lancer à chanter. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun complexe, il n'y a plus de béquilles, il n'y a plus d'hésitation. Quoi. Ça y est, tu as pleinement pris possession de ta voix.
Ouais, parce que j'ai beaucoup cherché à trouver ça en écoutant Marvin Gaye et Nina Simone. Jamais j'atteindrai ce niveau-là de puissance musicale, mais c'est juste qu'il y a un moment où ce qui terrorise le chanteur, c'est de chanter faux. Mais j'ai compris avec ces artistes-là que c'est pas tant la justesse de ta mélodie, c'est la justesse de ton émotion et de ton interprétation qui va faire que même si c'est un peu bleu, même si c'est un peu à côté, de toute façon, on peut corriger maintenant, on peut tout corriger. On peut donner l'illusion que c'est vrai alors que ça ne l'est pas, mais l'interprétation, le sentiment que tu as à ce moment-là, s'il est aligné, c'est là où tu fais la différence. Et c'est ces artistes-là qui m'ont montré ça, que je cherche à refaire.
Et tu as pris des cours de chant aussi, il me semble.
Ouais, j'ai pris des cours de chant après mon premier album, parce que j'étais parti en tournée. Et tu connais pas, t'as 19 ans, t'arrives en concert, tu cries comme un fou, tu sais même pas comment ça marche un micro et tout. Et du coup, je me suis éraillé la voix et j'ai eu un nodule, c'est un kyste sur une corde vocale, je me suis fait opérer. Et après, j'ai dû prendre des cours de chant, et c'est là où j'ai appris à chanter avec le ventre, ça a tout changé.
Et ça a aidé aussi à décomplexer et à permettre à ta voix de sortir. Ce que je trouve intéressant, c'est que ton vrai virage vers le chant, c'est ton album Pacifique en 2017. Et ça correspond aussi à un moment où ta musique, elle devient de plus en plus introspective. Ouais. Tu disais tout à l'heure, je n'osais pas chanter parce que c'était se montrer vulnérable. Mmh. Aujourd'hui, tu sais te montrer pleinement vulnérable. On va écouter un titre qui est l'illustration même de tout ça. C'est celui qui ouvre ton album. Il s'appelle La Rosée. On est avec This Is sur Inter jusqu'à 21h.
Au fond d'une classe, au fond d'un mariage, j'ai creusé des souterrains sous tous ces quadrillages. Pourtant j'étais ce petit garçon sage. J'écoutais la mer au fond d'un coquillage. J'ai vu les chocs des corps, le bruit, l'écho des coups. Dans ce décor, j'ai vu des corps de coups. J'ai vu des hommes en flammes devant nous baiser. Et nos yeux qui s'embrassent dans un musée. J'ai des blessures cousues de fil d'or. Du coup, quand je vois l'horreur, je pense à l'aurore. Je pense à la rosée et je vois des fleurs qui transpercent ton cœur. Je te souhaite le meilleur, ouh, ouh, ouh. Je fonce en vitesse lumière vers le désastre, vers les printemps silencieux et les hivers bavards. Dans cette fin, petit feu, j'ai bien dû faire ma part à cette vie et sa loterie. Je fais illusion que ça sent bon comme un pot pourri. Si ma mère a fait mon cœur comme la poterie, je l'ai fait tomber sur la terre, j'ai bien dû faire ma part. J'ai des blessures cousues de fil d'or. Du coup, quand je vois l'horreur, je pense à l'aurore. Je pense à la rosée, je vois des fleurs qui transpercent ton cœur. Je te souhaite le meilleur du meilleur. Ouh, ouh, ouh. J'ai des blessures cousues de fil d'or. je pense à l'aurore, je pense à la rosée, je vois des fleurs.
France Inter, Camille Diao, Tapage.
C'était La Rosée, extrait du nouvel album de This Is, qui est mon invité jusqu'à 21h. This Is, bon, il est particulièrement émouvant ce morceau qui ouvre ton album. Je voulais revenir sur cette phrase, j'ai des blessures cousues de fil d'or, du coup quand je vois l'horreur, je pense à l'aurore.
Faut que je parle de ça.
Ouais, raconte-nous.
Ouais, ça parle des traumatismes, de... C'est un disque qui parle beaucoup de violence quand même, parce que forcément, l'époque à laquelle on vit, qui, sur certaines parties de la Terre, est extrêmement violente, et on ne peut pas y échapper, même si on ne la vit pas, on sait qu'elle existe. Du coup, elle nous hante. Et pour moi, elle fait écho à d'autres violences, par rapport au milieu d'où je viens, par rapport à la fatalité de la vie, tout simplement. Et du coup, bah, c'est ma manière d'en parler et de panser des plaies. Donc la métaphore, elle est là. J'ai des blessures cousues de fil d'or. Du coup, quand je vois l'horreur, je pense à l'aurore. C'est simple.
Ce que je trouve très beau dans cette chanson, tu vois, tu parlais des imperfections du chant, du fait d'accepter parfois de faire une fausse note. Là, on entend presque ta voix qui chevrotte. Il y a cette, l'émotion, elle passe aussi par cette imperfection-là et tu l'as laissée sur le disque. Tu vois, t'as pas essayé de le rechanter de manière plus droite. Et c'est ce qui rend aussi ce morceau très touchant. Cette façon que t'as de te replonger en enfance, d'explorer tes traumas, la manière dont on pense ses blessures, moi, ça m'a rappelé un autre artiste que j'adore et que j'évoquais en introduction, qui s'appelle Luigi, qui fait la même chose dans son dernier album. Et dans cet album, on entend même la voix de son psy.
Ça, c'est lié à de l'anxiété. Alors, l'anxiété, ça n'a rien à voir avec le stress. L'anxiété, c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes gamin.
L'anxiété, ça n'a rien à voir avec le stress, c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes gamin. C'était la voix du psy de Luigi. Luigi, comme toi, il vient du rap. C'est intéressant quand même, tous ces rappeurs qui font tomber la carapace là, ces dernières années, et qui parlent de santé mentale, et t'en fais partie.
Ouais, bah parce que c'est une espèce de chape de plomb qu'il fallait faire sauter depuis longtemps, parce qu'on est dans une époque où... Heureusement, on se pose beaucoup de questions sur les relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes, le féminisme, tout ça.
Ouais, parce que c'est aussi une affaire de masculinité.
Exactement. Et c'est pour ça que, sans faire le prof, mais c'est bien de faire des petites dédicaces, que le travail phénoménal de Bell Hooks sur ces questions-là, moi...
C'est une autrice féministe américaine qui a écrit un certain nombre de livres qui sont cultes pour la nouvelle génération de féministes.
Ça me fait pleurer. Vraiment, pour de vrai. C'est-à-dire que ça met tellement des mots sur des mécanismes que tu ne comprends pas, qui te précèdent et qui t'enferment, que c'est libérateur. Mais vraiment, c'est des livres que je partage avec mes filles, tout ça. Enfin, ça fait du bien, quoi. C'est trop fort.
Bell Hooks, elle a notamment écrit un livre sur l'amour. L'amour, c'est le nom d'un de tes albums.
Ouais.
Est-ce que tu lisais Bell Hooks à cette époque-là ?
Je lisais plein de choses, mais j'étais pas vraiment rentré dans... Mais il y avait forcément, quand tu commences à t'intéresser à ces questions-là, il y a des ponts, parce que les gens se citent entre eux. Donc du coup, forcément, t'as une espèce de vision assez large sur ça, et après, bah, tu choisis un auteur qui te parle en particulier, et tu vas diguer vraiment sa pensée, son œuvre.
Alors dans l'album, t'as un invité de marque, un autre rappeur américain qui lui aussi a beaucoup fait pour libérer la parole sur la question de la santé mentale. Catch me in a zone, as I sit stare at the moon, I need peace of mind, there's so much darkness inside my life. Cette voix, c'est celle de Kid Cudi. Raconte-nous comment tu t'es retrouvé en studio avec Kid Cudi.
C'est grâce à DJ Mehdi. DJ Mehdi, en vrai, j'étais parti à l'avant-première du documentaire sur DJ Mehdi qui a été fait par Thibaut de Longeville.
Excellent documentaire qui est toujours à voir sur Arte. Je précise juste, DJ Mehdi, producteur à la fois de rap et de musique électronique, qui est malheureusement mort beaucoup trop jeune à l'âge de 34 ans, et qui est quelqu'un qui a beaucoup fait justement pour tisser des ponts entre ces différents univers et qui a imprimé une marque très importante sur la musique française et qui continue à connecter des gens.
C'est ça, c'est un espèce de trait d'union magique qui crée des alliances avec des mondes qui vraiment ne se mélangeaient pas, quoi. c'est la force de DJ Mehdi. Et du coup, bah, même après son départ, plein d'années après, bah, il fait en sorte que Kid Cudi et moi, quelque part, on se retrouve dans le même studio. Parce que j'avais réservé le studio A à Paris. Et lui, il en avait besoin pour justement faire des sons sur des prods de DJ Mehdi qui étaient inédites. Et voilà, j'étais dans le studio d'à côté et on s'est parlé, on s'est fait écouter des trucs. Il m'a invité sur son projet. Du coup, je l'ai invité sur le mien et on a un morceau qui est...
Yeah. J'espère que DJ Mehdi écoute ce morceau là où il est. Dans ton album, il y a une thématique qui revient beaucoup et qui m'a frappée, c'est celle de la culpabilité.
Je plaide coupable de toute façon, il y a l'enfance dans l'équation. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis dans la culpa. Culpa, culpa, culpa. Dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait?
Ça veut dire que même avec tout ce chemin que tu as fait, tous ces livres que tu as lus, il y a toujours une culpabilité qui traîne quelque part et dont tu n'arrives pas à te défaire.
En fait, je pense que c'est la maladie occidentale. Je pense que le fait de vivre de ce côté-là du monde, par rapport à l'état du monde, à la responsabilité qu'on a individuellement et collectivement par rapport à tout ça, bah forcément, ça fait que moi, je peux pas m'en foutre, en tout cas. Et c'est large, hein, sur tout un tas de sujets. Mais j'ai du mal à m'en foutre. Et c'est pour ça que je dis, après, c'est mis en scène, c'est pour un morceau et tout, mais dans ce que je vis, dans ce que je mange, dans tout, tu peux te sentir coupable à tous les endroits. Après, Mona Chollet a écrit un livre sur ça qui est très intéressant. Mais je parle pas de cette culpabilité-là, je parle vraiment par rapport à l'histoire, à tout un tas de choses.
Mais c'est intéressant parce que dans l'album, en tout cas les extraits que j'ai fait entendre, j'avais le sentiment que c'était plus une culpabilité dans tes relations interpersonnelles, par rapport à tes enfants. Par exemple, la dernière phrase de l'album, c'est « je vois pas assez mes enfants ». Et donc je te pose la question de la culpabilité et toi tu me parles de l'état du monde. Ça veut dire que tout ça c'est lié ?
Tout ça c'est lié. Je pense que le sentiment de dépression, on va dire, il est aussi lié à tout ça. C'est-à-dire que le fait que tu ne sois pas hermétique à la détresse du monde, c'est parce que toi aussi, tu la vis, quelque part. Donc c'est pour ça que je fais des liens avec tout ça, et que parfois, c'est des métaphores. Par exemple, dans Surfeur, j'ai jamais voulu être surfeur, moi. Mais cette manière de vouloir plaire à tout prix à quelqu'un, ou à un système, ou à une société, qui, malgré tous les efforts que tu fais, te rejette, c'est une manière de raconter ça. En même temps, j'ai aussi été amoureux d'une fille qui s'appelait Séverine et qui m'a inspiré ce morceau-là. Mais à chaque fois, je fais des espèces de ponts entre des choses qui, peut-être, n'ont rien à voir. Mais c'est jamais littéral.
Bah, c'est intéressant que tu parles de Surfeur, parce que justement, j'avais très envie d'écouter cette chanson-là. On a entendu quelques extraits. Cet album, il est infusé de sonorités des années 80. Enfin, moi, je l'ai un peu entendu comme ça. Il y a beaucoup de synthé, beaucoup de boîtes à rythme. C'est un album qui est, je pense, profondément pop. Enfin, je sais pas si c'est un gros mot pour toi. Mais c'est aussi un album dans lequel il y a des références à chercher du côté de la chanson française. Et c'est le cas de ce titre, Surfeur. On va l'écouter tout de suite. Sur Inter, on en parle juste après.
Elle était belle, comme sur un poster. Il voyait qu'elle, dans toute l'atmosphère. Les avions dans le ciel, sur la côte basque, font une pub aérienne pour une paire de baskets. Et il ne voit qu'elle. Il ne voit qu'elle. Surfeur, surfeur, tu n'es pas un surfeur, surfeur. Elle, un surfeur, surfeur.
Donc tu t'es mis au surf, t'as passé la barre, et t'as vu la tasse, la tasse. Puis t'as cherché les vagues, t'as trouvé les vagues, t'as surfé les vagues. Voilà, tu es beau, tu es seul au large. Sous le soleil, tu nages. Tu la love, tu la love. Voyage vers le beau.
Surfeur.
voyais qu'elle dans toute l'atmosphère. Maintenant elle aime un maître nageur.
Et oui, vous l'avez bien reconnu, cette voix, c'était celle de Laurent Voulzy, invité sur le nouvel album de DC's, qui est l'invité de Tapage cette semaine. La grande classe d'avoir Laurent Voulzy, DC's.
Ouais, la grande classe, la patatas fritas classe, incroyable. Laurent Voulzy, moi quand j'étais plus jeune, les morceaux comme Belle Île en mer ou Cœur Grenadine, j'écoutais plein de trucs hyper rap, tout ça et tout, mais j'avais toujours cette petite Madeleine de Proust sur le côté qui me faisait voyager, Saint-Ismé, il est doux, il est gentil, j'adore Laurent Voulzy. Ouais.
Dans le morceau, tu dis que tu pleures en écoutant Laurent Voulzy.
Ouais, bah ouais. Quand t'es vraiment enfermé dans des histoires, à un moment, tu sais, les rixes dans les quartiers, tous ces trucs-là et tout, c'est absolument anxiogène, justement, on parlait d'anxiété tout à l'heure. Et du coup, bah, c'est ces espèces de bulles d'été que ça te met dans le cœur, ça peut te faire verser une petite larme dans ton coin, mais tu vas certainement pas le montrer à qui que ce soit à cette époque-là, en tout cas.
Bah, ça tombe bien, puisque je crois qu'il y a quelqu'un qui tenait à te laisser un petit message ce soir.
Salut, DC's, c'est Laurent Voulzy. Quelle bonne idée tu as eue de venir me voir à la fin d'un concert à Paris, il y a quelques temps déjà. Alors, nous avons fait connaissance et tu m'as proposé de partager des séances de composition avec toi.
Incroyable.
Nous sommes allés à Bruxelles 2-3 jours en studio, et j'ai découvert une autre façon de partager la musique, et j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. J'ai passé de jolis moments avec toi et ton équipe, et je serais ravi de surfer sur de nouvelles vagues ensemble. Merci d'être ce que tu es.
C'était Laurent Voulzy.
Je voulais me faire pleurer ou...
C'est le plan.
Ah non, mais franchement, c'est trop touchant. Quel honneur. Quel honneur, vraiment, d'avoir rencontré cet être humain-là, vraiment, vraiment. Quelle bonne vibe en studio. Et puis là, c'est assez protocolaire, ce qu'on raconte et tout, mais en studio, Laurent Voulzy, c'est quelqu'un qui rigole. C'est vraiment des bars. Quand on a fait Surfer, à un moment, il a ouvert sa chemise. Il porte des chemises à jabot, donc il avait mis son tissu autour de sa tête comme un surfeur. Il a dit « Ouais, je suis prêt pour faire le titre. » Et j'ai le Polaroid de ça.
C'est
incroyable,
génial.
Incroyable.
Bah, du coup, vous allez peut-être surfer d'autres morceaux ensemble, comme
tu le
proposes.
Mon rêve, désolé, je t'ai coupé.
Non, c'est...
Mais mon rêve, ce serait de réaliser l'album de Laurent Voulzy.
Laurent, si tu nous entends.
Alors là, franchement, je viens avec Manu, Emmanuel, Camille, avec Deji, Neon Valley. Wouhou.
C'est ton équipe?
Ouais, c'est mon équipe.
D'ici, on parlait en début d'émission de tout ce qui a changé et évolué chez toi depuis le début de ta carrière, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est une certaine colère, t'en as déjà parlé, une certaine colère face à l'état du monde et une forme de critique politique et sociale.
Trop de violence dans ces zones où personne ne voudrait vivre. On échoue tous sur les récifs des grands villes.
À d'où j'ai rêvé de Palavas, mais y'avait pas la place pour un demi-négro sage, mais pauvre. Moi je ne viens pas de la middle class, hélas. Quand je vois tout ce que j'ai raté, je dis c'est naze d'être pauvre. Putain, j'ai tout, je suis comme à la main. Les pas grand ouf, comme je la me da. Faut que je me barre de là, faut que je me barre de là. Mais ça ferait plaisir à ce bar de là.
Ça ferait plaisir à ce bardella si je me barrais de là. Je trouve intéressant que sur ce morceau, tu reviens au rap un peu plus pur.
Mmh. Bah, parce que je sens la patate arriver, comme on dirait au quartier, où en vrai, moi je suis dans 78. La première élection dont je me souviens, c'est celle de Mitterrand. Je ne serai pas précis sur à quel moment c'est, mais je sais que c'est associé à SOS Racisme. Donc on est
donc
dans...
C'est sa réélection probablement, parce qu'en 80, tu avais 3 ans,
c'est
peut-être un peu jeune.
C'est ça. Mais donc du coup, déjà, l'élection, la question, ou les questions qu'on se pose sur un certain type de personnes dans ce pays, elle est centrale dans l'élection. L'élection d'après aussi, avec Chirac et le bruit et l'odeur. Ensuite, il y a, c'est la phrase sur le Karcher.
Ouais, ça c'est Nicolas Sarkozy.
Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour garantir la paix sociale, on va utiliser ces questions-là comme si elles étaient fondamentales et que c'était le seul et unique problème dans ce pays. Ah oui, j'ai oublié Papivoise, c'est ça que je voulais dire.
Papivoise,
c'est l'élection, je ne sais plus quelle élection, mais je sais que ça fait basculer l'élection aussi. Parce que dans un journal sur TF1, on montre un jeune papy trop touchant qui, dans un fait divers, qui aurait été un fait divers en dehors de la campagne, est devenu quelque chose qui était déterminant pour la campagne. Et voilà, ça parle encore de violence, ça parle encore de tout ça, et du fait que bah, ça ne va pas dans le bon sens. C'est inquiétant.
Dans les extraits qu'on a entendus, t'as cette expression que je trouve très belle pour qualifier la banlieue, donc l'endroit où t'as grandi, les récifs des grandes villes.
Mmh.
On continue à filer d'ailleurs la métaphore maritime, ouais. Et de l'eau.
Parce que j'avais vraiment ce sentiment-là quand j'étais plus jeune et que je voulais monter sur Paris, il y avait moins de trains. Il y avait moins de trains, c'est-à-dire que pour rejoindre cette ville-là, tu sens que de manière factuelle, dans l'organisation et dans le management de masse, il y a un certain type de population qui vient de certains quartiers pour garantir la paix sociale dans certains endroits. On fait en sorte que, dans l'aménagement du territoire, ce soit bien arrangé comme ça. Mais dans la vraie vie, quand tu es quelqu'un qui vient de là-bas, tu le ressens factuellement dans ta vie. Et c'est de l'exclusion, encore une fois.
C'est très intéressant parce que ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu sur la ville de Marseille. Donc Marseille, comme on le sait, c'est les quartiers nord de la ville qui sont les plus défavorisés. Et plus on descend vers le sud, on passe par le centre-ville et puis on arrive dans les quartiers les plus riches. Et j'avais entendu dire que la Canebière, qui est cette grande avenue qui descend tout droit vers le Vieux-Port, elle avait été volontairement pensée à sens unique, de façon à ce qu'on ne puisse pas descendre facilement en bus depuis les quartiers nord et arriver dans le centre-ville. Donc c'est un peu ce que tu racontes. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus.
Bien
sûr. On fait en sorte que ces populations restent sur les récifs.
Bien sûr, exactement. Et du coup, bah, ça permet de... Après, voilà, je ne vais pas m'étendre sur tout ça et tout, mais ça permet d'essentialiser, de faire des groupes, de simplifier et de dire eux, nous, alors que c'est nous, tous.
Dans les extraits qu'on a entendus, tu as une autre phrase sur laquelle je voulais m'arrêter. Il n'y avait pas la place pour un demi-négro sage mais pauvre. Et cette phrase, moi, elle me touche parce que, en fait, tu parles de ton identité, qui est une identité qu'on partage, puisque tu es métisse. Ça concerne aussi des millions de Français. Et ça m'a rappelé un de tes morceaux de 2014, qui s'appelle Complexité française, et dans lequel tu disais « Mon identité est non identifiée ». Est-ce que le fait d'être métisse, ça complexifie encore un petit peu plus l'équation?
Ouais, ça complexifie tout, parce que tu peux voir les choses à travers la couleur de peau ou les origines de tes parents, mais il y a aussi le classisme dans tout ça, ce qui fait que tout ça, ça se superpose, et qu'en tant que métisse, t'as tellement de cartes et d'identité, comment tu veux correspondre? Puis ça veut absolument rien dire, tu vois, de dire une famille française, elle est comme ça. Ça, tu vois, de se définir par rapport à quoi, c'est extrêmement compliqué. Mais pour nous, ouais, c'est vraiment flou.
Toujours aujourd'hui?
Non, aujourd'hui, je me suis affranchi de tout ça. Je suis comme je suis. Mais je suis abîmé de tout ce chemin-là pour en arriver là. Parce que c'est pas qu'une question de, ouais, un tel ou un tel ou un tel. Même entre nous aussi, on se fait du mal. Donc c'est compliqué.
C'est le chemin d'une vie.
C'est ça.
D'ici, on va rentrer dans le dernier quart d'heure de l'émission. C'est le moment où on fait un peu monter la température. On se met en jambes pour la fiesta du samedi soir.
Let's go.
Et il y a un titre de l'album qui me semble tout indiqué pour ça. C'est celui-ci, Amsterdam.
La nuit, des fois, ça tisse, des fois, ça tasse, ça vit très bizarrement. Le corps en tour de pise, les yeux en diagonale, je sais plus vraiment. Ni où est-ce que je suis, ni où je vais, c'est là apparemment. Demain, je me félicite si je réussis à rejoindre l'appartement. Mon ex, elle se me traite de toxicomane. J'ai dit que je préfère être ça qu'une gossip toxique woman. J'ai les pupilles carrées, je vois tout en pictogramme. Les ronds-points sont carrés, big picture, c'est le programme. J'ai quitté l'aventure du réel ce soir. J'ai quitté le dur, je fais du surf dans les ruelles. Carré comme une prunelle, Habiba Bloula. Je suis avec elle, je la love dans Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam.
voiture, du réel ce soir. J'ai quitté le dur, j'fais du surf dans les ruelles. Et carré comme une prunelle, un bibabloula. Je suis avec elle, on se love dans Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam. Avec ma go dans le fumoir, nos deux cœurs en buvant. Elle laisse des baisers dans mon cou, je suis un puma. Ses yeux sont pas humains, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est un délire, nos corps en pâte à pain. Et nos mains font que pétrir. J'ai quitté l'aventure du réel ce soir. J'ai quitté le dur, je fais du surf dans les ruelles. Et carré comme mes prunelles, et puis pas beloula. Je suis avec elle, on se love dans Amsterdam, Amsterdam.
Nous emmène faire la fête à Amsterdam, extrait de son nouvel album On s'en rappellera pas, dans lequel on continue de plonger ensemble dans ta page jusqu'à 21h. Amsterdam, d'ici, c'est une ville qui revient beaucoup dans cet album-là.
Ouais.
C'est une ville où t'es beaucoup allé faire la fête, j'ai l'impression.
Oui, pas que faire
pas
la,
que
fête.
La fête.
Non, non, pas que la fête, travailler aussi. On a enregistré le morceau On s'en rappellera pas, on l'a enregistré là-bas.
Qui donne son nom à l'album.
Ouais. C'est une ville très reposante, au-delà du cliché, de la fonce des, tout ça. Oui, mais il n'y a vraiment pas que ça. La manière dont... Juste l'architecture de la ville, tu vois, les canaux, tout ça et tout, c'est assez particulier. J'aime beaucoup aller là-bas pour ça.
Oh, on peut se balader en barque,
ouais.
Y a plein d'habitations qui sont au bord de l'eau. C'est vrai que c'est la dernière fois que je suis allée à Amsterdam, je me suis dit, mais pourquoi on ne vit pas tous comme ça?
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est pas vrai, que la vrai. Fête. Il y a Amsterdam, et puis il y a aussi, on l'a entendu dans ce morceau, mais c'est vraiment une thématique aussi qui traverse tout l'album, la question des drogues récréatives.
J'suis tombé dans la drogue, y'a beaucoup de stock. J'suis sous effet, donc je veux. Si t'es perdu, si t'es en after, tu devrais être ailleurs, mais t'es fire. La nuit sera blanche comme Michel Pfeiffer. Ce soir je me perce, ce soir je me foire, c'est sûr je me rabatte. Sous substance douce, on danse tous pendant que tout fond doucement. On fait tout semblant comme le ciel bleu sur l'océan rouge.
On sent que c'est un sujet qui traverse ta vie et qui
ouais.
te travaille aussi.
Ouais, mais il y a plusieurs angles à ça. Déjà, ça m'a toujours. Fasciné, ma première approche de ça, c'est un livre qui s'appelle Les portes de la perception de Aldous Huxley et qui parlait de, justement de l'altération du psychisme sous effet, mais dans une recherche vraiment scientifique. Et du coup, ça m'a intéressé comme objet de création, en tout cas comme sujet dans la création. Mais c'est aussi en parallèle par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vis dans ta vie. Et on parlait de dépression tout à l'heure, donc parfois tu fais des raccourcis, et puis après tu te réveilles et tu dis « Ok, en vrai, c'est bien sur le moment, mais c'est pas good vibe, c'est pas une solution, c'est pas tout ça. » Et du coup, bah, comme j'ai un rapport sincère et authentique à ma musique, sans faire des... Enfin, quand je raconte quelque chose, c'est pas un procès verbal, ça s'est pas passé comme ça. Ça reste de la poésie, mais effectivement, il y a eu une certaine forme d'exploration dans ce disque-là, jusque-là.
C'est intéressant parce que c'est une exploration aussi sonore. On a entendu dans ce morceau cette façon dont tu déformes les mots, dont tu joues avec la répétition de certaines consonnes. Enfin, on a l'impression que tu as essayé de recréer pour nos oreilles les effets de la drogue.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que c'est un cheminement, c'est le cheminement d'un sentiment. Et j'essaye de le traduire de la manière la plus authentique possible, tout en la mettant en musique. Mais le morceau, ça s'appelle La Mer, justement. Moi, c'est mon plus beau morceau que j'ai fait de toute ma vie, jusqu'à présent.
C'est le dernier extrait qu'on a entendu, il me semble.
Ah oui, ok. Oui, c'est ça.
D'ici, c'était où, typiquement, un samedi soir, quand t'es pas coincé avec moi dans le studio de France Inter?
un samedi soir, typiquement, ça dépend si c'est la semaine où j'ai mes enfants ou pas. Mm-hmm. Donc si j'ai mes enfants, en général, je suis avec eux, avec mes filles, je joue à Mario Kart. Et si j'ai pas, bah, ces derniers temps, j'étais en studio, où parfois, bah, je peux sortir et un peu faire la fête après le studio.
Et en quelques mots, c'est quoi une bonne fête, selon DC's ?
Une bonne fête, selon moi, déjà, c'est pas à Paris. C'est pas à Paris.
Pourquoi ?
Je sais pas, j'ai besoin de dépaysement. Paris, ça m'étouffe un petit peu. Parce qu'il n'y a pas d'horizon. Tu vois jamais l'horizon à Paris. Et ça, au bout d'un moment, c'est trop intense.
Donc c'est loin de Paris ?
Ouais, ouais, dépaysant. Ça peut être, je sais pas, j'ai pas forcément d'endroit. C'est plus les gens, l'ambiance, la musique.
C'est l'alchimie, quoi.
C'est ça.
Qui se fait ou qui se fait pas. D'ici, je t'ai demandé de venir avec la bande-son de ta fête idéale, histoire de finir cette émission en dansant. Et t'as choisi un morceau de rock, un groupe québécois qui s'appelle Men I Trust. Je te propose qu'on écoute le morceau et on débriefe juste après.
Let's go.
Trust, c'est le choix de DC's pour votre samedi soir. Un choix qui va peut-être en étonner certains et certaines d'ailleurs. C'est donc sur ça que tu fais la fête, DC's ?
Non, c'est pas. Non, moi je l'ai pas vu comme ça. Ça, c'est le son pour aller faire la fête.
Ah, c'est en chemin.
Parce qu'on dirait même un son de braquage.
Ah ouais ?
Tu vois, il y a un truc où vraiment tu sens que c'est, tu vois, la pulsation, l'adrénaline. Genre, let's go, on y va. Ça
ouais,
va être spécial.
Un truc d'urgence un
c'est
peu dans
la
guitare.
Ça que j'aime bien. Mais c'est pas un son de soirée, tu vois.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
D'ici d'être venu passer cette heure de tapage avec moi. Ton album, il s'appelle On s'en rappellera pas. Il est sorti hier, il est dispo sur toutes les plateformes. Et contrairement à ce que son titre indique, moi je pense que c'est un album dont on se souviendra.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Tu seras en concert le 18 décembre à La Rochelle. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres dates à venir ? Je n'ai pas trouvé d'autres.
Oui, il y a d'autres dates qui d'ailleurs sont annoncé officieusement. Mm-hmm. Voilà, parce qu'après on va faire une autre annonce. Mais là, je crois qu'il y a des possibilités. C'est pas je crois, je sais qu'il y a des possibilités de me voir en concert dans des grandes villes très prochainement. Donc faut se renseigner un peu.
On vous mettra tout ça sur le site de France Inter, sur la page du podcast. Merci encore à toi.
Merci à toi.
On se quitte en musique avec une nouveauté en playlist Inter. C'est le britannique Joshua Idehen. It always was. Au super accent anglais sur France Inter. Take this.
With a little bit of luck and a handful of courage, we will make it through the night and out to where the sun is, where the love is. Manifesting with my mates, bright faced and beaming. Backseat in Benji's Mazda. The world is loud, but we sing louder. Pistol fingers through the window. My joy is a whistle, loud in its belief. After this, something good is coming. My losses, it taught me how to win. Maybe the reason I ain't that good at swimming is 'cause I was born with wings. And the answer's right here in our hands. It always was. It's all down to us. And that much I trust. My friends. I see my own, and just as she spoke, all the lights turned green on our road. My friends hold me as I hold them, wish I told them more often. After dodging through the speakers, the morning rose to meet us. Sun on my skin, like all of my sins are forgiven. This is it, this is how we win, my friends. This is how we win.
Joshua Idehen sur France Inter pour conclure cette heure de tapage. Un grand merci à toute l'équipe de l'émission, Alexis Goyer à la préparation, Mathieu Frette à la réalisation, Selim Guéribi et Raphaël Rousseau à la technique. Juste après le journal, c'est la chanteuse Imani qui prend le contrôle des ondes dans la Radio 2. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, pour encore plus de tapage.